Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission du mercredi 26 août 2026, dernière semaine pour un cadrage macro. Et vous savez, quand on sort le PowerPoint, en général, c'est que ça devient sérieux. Donc sur une semaine cruciale avec des enjeux importants qui pourraient débuter justement les choses complexes pour cet automne 2026, puisqu'on a les résultats de Nvidia qui vont être le catalyseur le plus important de cette semaine pour l'IA, la tech et les semi-conducteurs. On a besoin de résultats extraordinaires comme d'habitude. Le PCE, le prix à la consommation, l'inflation qui est la plus surveillée du côté de la Fed, notamment dans un environnement pré-stagflationniste juste avant un week-end des plus importants. Puisque comme vous le savez, il va se dérouler au cours de ce week-end pendant 3-4 jours, le symposium de Jackson Hole, c'est tous les ans, avec Kevin Warch, pour lequel il sera pour la première fois à la tête de la Fed, puisqu'il a remplacé, comme vous le savez, Jérôme Powell. Donc plus que jamais, chaque mot auront leur importance. Le tout dans une saisonnalité défavorable, ça n'est pas une légende puisque depuis 1950, le S&P 500 a produit environ moins 0,6 à moins 0,7 en moyenne avec seulement 44 à 45% de mois positifs. Et depuis 1928, septembre ressort à moins 1,2% et 55% de négatifs. Le Nasdaq est encore plus sensible avec environ moins 1 point en moyenne depuis 1985. N'oublions pas également qu'on se dirige doucement mais sûrement vers les midterms du président des États-Unis en novembre. Le S&P 500 aux portes de son ATH avec un setup chargé en 2026 puisqu'on est à plus 12% en year to date et au 21 août 2026 en progression de 20,5% sur un an. L'indice est devenu fortement concentré et donc sensible à la tech. 36,8% du S&P 500 est désormais composé d'informations technologie. Un début de recul est initié depuis une bonne semaine et qui pourrait perdurer au cours de ce mois de septembre. Le point critique du moment vient pas forcément du marché action mais des taux longs et qui est le véritable fusible du marché à court moyen terme. Le 30 ans US vient d'atteindre il y a 10 jours avant l'intervention du Treasury son plus haut niveau depuis 19 ans et reste au-dessus des 5% malgré les effets d'annonce de rachat obligataire. Pour le Nasdaq, la mécanique est assez directe. Les taux réels longs qui augmentent entraînent les taux d'actualisation eux aussi en augmentation, c'est-à-dire on veut toujours plus de résultats et l'argent coûte plus cher aussi, engendrant à leur tour une baisse de la valeur actuelle des bénéfices à venir. Donc on a les multiples de la tech qui sont sous pression et c'est problématique lorsqu'on combine cela avec des multiples déjà bien élevés. Attention toutefois, le PE forward du S&P 500 est à 20 fois contre 19,9 sur une moyenne de 5 ans et 19 fois sur une moyenne de 10 ans. Donc rien de dramatique pour l'instant, au niveau des multiples en tout cas à venir, juste cela devient beaucoup plus sensible à la moindre mauvaise nouvelle. La Fed pour sa part dans une impasse. Le 19 août, les minutes publiées par la Fed ont juste démontré et accentué les inquiétudes inflationnistes. Plusieurs membres sont favorables à une remontée des taux immédiate. Au 24 août, 5 jours plus tard, toujours selon Reuters, le marché anticipe à présent une hausse de taux à 0,25 points de base avant fin 2026. Donc on a un scénario qui petit à petit pour cette fin d'année 2026 à 2027 est dans un cadrage qui est dans une inflation persistante plus des déficits et dettes incontrôlés, des taux longs élevés qui amèneront de toute évidence la Fed à prendre certainement des décisions impopulaires et c'est beaucoup moins confortable pour un Nasdaq qui est déjà cher. Il y a également un phénomène court terme de complaisance avec le VIX, l'indice de la peur et de la volatilité du S&P 500 qui était encore à 15 points le 21 août, proche de la partie basse de sa fourchette à 52 semaines qui se trouve entre 13 et 35. Donc nous avons simultanément des indices élevés, une faible volatilité implicite, forte concentration de la tech, saisonnalité défavorable en septembre avec des taux longs supérieurs à 5% et une Fed potentiellement au quiche, c'est-à-dire qui devrait remonter les taux. Une configuration en cocktail explosif et typique où un événement relativement modeste peut provoquer une réaction de marché totalement disproportionnée. Le mois de septembre pourrait s'ouvrir sous le signe d'une correction continue mais modérée tant qu'il n'y a pas d'autres catalyseurs baissiers qui viennent s'additionner. On pourra viser moins 5 à moins 8% sur la zone des 7000 points dont on a parlé là aussi très souvent lors de l'analyse technique. Les multiples importants sur l'IA et semi-conducteurs devraient continuer de décompresser légèrement. Une correction plus marquée peut toujours intervenir, mais ça n'est pas le scénario principal à court moyen terme. Cela nécessiterait un combo vicieux avec l'inflation nettement supérieure aux attentes lors des prochains résultats. Nouvelle accélération des taux à 30 ans aux États-Unis, alors même qu'ils sont en train d'essayer de jouer aux pompiers avec ça. Problème problèmes géopolitiques autour du pétrole, ça on n'est pas sorti du sable, et résultat et guidance autour de l'IA qui serait décevant, jusqu'ici ça n'est pas arrivé. L'argumentaire positif en retour et l'effet qu'il est tout autant du côté du gold et du BTC à court moyen terme, les bénéfices US restent solides, sur les 88% du S&P 500 ayant publié au 7 août, 86% avaient battu les attentes, ce n'est donc pas dans un setup classique d'une économie qui déraille, plus profit en chute, plus marché extrêmement cher que nous nous trouvons. Cela ressemble davantage à une bataille entre des profits très importants par rapport à des taux qui sont hauts, des valorisations et la liquidité disponible au marché. Dans ce contexte au taux long élevé qui compresse, qui comprime les multiples, le Bitcoin en simultané de l'or se remettent à briller. Le BTC peut alors devenir un des premiers actifs à s'affranchir avant même une reprise franche du côté des actions. En conclusion, un S&P 500 proche de ses sommets, l'or qui monte, les bonds au taux long sous pression et un marché action en correction. Et ça fait la part belle, bien entendu, aux actifs un peu plus risk-on puisqu'on commence à regarder un petit peu ce qui se passe autour. Une configuration macro qui reste tout à fait anormale pour la rentrée qui elle-même aboutira cet automne à une situation non conventionnelle. Donc pour les 6 prochains mois, préparez-vous à toute éventualité. C'est parti pour l'analyse technique avec le VIX, comme on vient de le voir, qui est en train depuis bien longtemps de rester très bas, le tout avec le miroir inverse du côté de l'indice qu'il suit, c'est-à-dire le S&P qui lui est très haut. Donc forcément, quand on aura un retour de positif sur la volatilité du VIX, ça sera très certainement négatif par la suite du côté du S&P 500, puisque c'est un petit peu comme du côté de Bitcoin, sauf que Bitcoin en était plus sur une phase de désintérêt et ça faisait 2 mois où il ne se passait plus rien et en plus on sort potentiellement d'un bear market, donc la configuration est presque inversée. Mais par contre, sur la volatilité implicite, à partir du moment comme ça où vous avez un marché qui est très bas pendant très longtemps d'un point de vue de la volatilité, puisque le S&P lui est très haut, eh bien on va avoir un retour de volatilité. Et forcément, quand on vient faire des nouveaux ATH sur un indice, vous vous doutez bien que si retour de volatilité il y a plus de chances que ça soit marqué, en tout cas à court terme, sous le signe de la correction. Le pétrole qui recule à $80 le baril pour l'US Oil, l'UK Oil est autour de $86, donc statu quo. Le CAC 40 à 8439 en correction depuis 3 semaines. Là aussi, peut-être une zone d'intérêt autour de 8200 points. Le dollar américain s'accroche à sa moyenne mobile 50 pour le DXY autour de 99 points, c'est à surveiller. Hier, on avait les indices monde qui ont clôturé léger dans le vert, mais qui sont également un petit peu en train de tous faire le dos rond, et c'est exactement ce qu'on voit au niveau des oscillateurs, notamment type MACD. Le 30 ans qui a corrigé légèrement pour les taux des États-Unis en provenance donc de 5,33, quasi 34, et aujourd'hui il est autour de 5,18. Donc là aussi, ceux qui ont chopé des obligations à 5,3 et plus, normalement vous êtes à peu près sorti de l'ornière, mais attention à ce qu'il n'y ait pas effectivement un rebond si jamais les chiffres notamment apparaître là par rapport au PCE n'étaient pas super reluisants, chose qui en l'état, on attend une inflation qui serait à minima stagnante voire légèrement rebondissante à nouveau, mais on a toujours cette problématique en effet de l'inflation énergétique qui à la fin se transfère et se spread un petit peu au travers de tout le reste des autres domaines et de la consommation courante et de tout ce qui va bien. Donc ça aujourd'hui c'est un petit peu ce dont on parle en fil rouge, en arrière-plan depuis quelques mois, voire quelques trimestres. Certes, c'était excitant ce qui s'est passé du côté de l'IA, de la tech, mais comme on le dit souvent un petit peu pour plaisanter, mais c'est pas si marrant que ça, on va pas se mettre à manger des puces ou à faire fonctionner notre voiture thermique avec une nouvelle énergie qui viendrait justement sortir de tout cet écosystème des semi-conducteurs. À ceci près que d'ailleurs aujourd'hui, c'est un véritable sujet et enjeu, c'est même plus les puces, le goulot d'étranglement pour l'IA et les semis, ça devient l'énergie, ça devient l'électricité. Et ça aussi, ça va être un véritable problème. En parlant de semi-conducteurs, le SOX, l'indice donc, et ETF est en train là aussi de continuer de corriger, mais petit à petit, c'est en train de se poser. On va voir si ça passe à l'étage inférieur, puisqu'ici, sur le RSI à 53 en hebdo, on a un peu un support haut. Donc, est-ce qu'on déclenche véritablement des prises de profit supplémentaires pour aller visiter, pourquoi pas, 9100 points ici sur le Nasdaq pour le Philadelphia Semiconductor Index, voire chercher le 0,618 autour autour de 7700 points. C'est tout à fait de l'ordre du possible, mais en effet, il faudrait des mauvais résultats à un moment donné qui arrivent sur des superstars du moment, un petit peu comme Nvidia, chose qui, en l'état, vu les avancées qu'ils ont et qu'ils font, a assez peu de chances d'arriver. Donc certainement qu'on reste un petit peu dans ce qu'on a vu au niveau des slides, une correction qui va perdurer, un petit peu de persistance, un petit peu de doute cet automne, saisonnalité mauvaise en septembre, mais c'est pas forcément une phase de crack non plus. En attendant, il y en a un qui en profite, et bien c'est le gold. On est venu chercher donc au cours du début de cette semaine quasiment 4 700 $ l'once. On est désormais sur un rebond depuis les points bas d'environ 18-19%. Ça n'est pas rien sur une capitalisation aussi grande, donc à surveiller. C'est pareil du côté du reste des métaux précieux, on les passe un petit peu moins, mais vous avez le cuivre, vous avez l'argent, le palladium, le platine, l'aluminium, et le choix de vous y exposer potentiellement soit au travers d'ETF en ne détenant pas votre or ou vos métaux, ou directement en achetant, eh bien, il y a beaucoup de personnes encore aujourd'hui qui aiment bien acheter directement leurs métaux précieux en physique. On a la dominance des stablecoins qui bataille avec la moyenne mobile 50 et qui pourrait venir s'échouer autour de 0,09. Sur ce ratio, on a 0,1 en provenance donc d'un potentiel top à 0,13. Précédemment, sur le cycle précédent, on avait topé à 0,17. Donc là, on est sur une phase de distribution clairement, mais on va arriver très rapidement sur un support en même temps que du côté du crypto total, nous sommes au contact de la moyenne mobile 50 qui se trouve sur toute cette zone entre 2700 et 2720 milliards. Donc cette zone du côté de Bitcoin est également bien mise en avant puisque c'est exactement pareil. La MM50, on l'a vu un nombre incalculable de fois du côté de BTC. À partir du moment où on arrive à la reprendre durablement et à surfer dessus, c'est ce qui se passe systématiquement au cours de ce qu'on appelle le bull run, c'est-à-dire une phase ascensionnelle qui, pendant quelques mois, est vraiment très frénétique et on a très peu de temps mort quelque part pour essayer de re-rentrer ou ce genre de choses. C'est aussi pour ça que les personnes qui sont exposées depuis très longtemps aux cryptos sont souvent un peu entre ces deux feux de se dire « Ok, on sait à quel point ça peut partir très vite et être ensuite compliqué de rentrer dans des phases ascensionnelles. » Mais d'un autre côté, il y a ceux qui attendent systématiquement le point bas ultime. Et c'est pour ça qu'entre ces deux extrêmes, comme on l'a répété un nombre incalculable de fois, la moins pire des bonnes manières, bien effectivement, c'est le DCA. Et comme ça, vous ne vous cassez pas la tête, vous êtes déjà exposé quoi qu'il arrive. Et par la suite, ça vous permet de profiter à minima du gros du mouvement tout en ayant eh bien, déjà un pied dedans. Donc aujourd'hui, eh bien, on a la moyenne mobile 50 semaines qui est à 81 000. Elle a plus baissé que ce que je pensais puisque la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, on était à 82,5,6. Donc elle a quand même une pente importante à court terme et on voit que c'est ce qui coiffe ici depuis deux semaines le cours. On a également la zone qui avait fait office de résistance dure autour de mai 2026 à 83. Donc tout ce qui se passe actuellement entre 79 et 83 est une zone dure, structurelle de marché et en théorie, c'est pas censé passer si facilement. On est censé faire un petit peu le yo-yo, pourquoi pas, entre 70 et 80 pour se faire un semblant de marchepied. Voire même, j'avais vu passer ça du côté des réseaux sociaux, ça me semblait pas si déconnant. On a le début d'une formation, d'une épaule tête-épaule inversée ici, qu'on pourrait très largement retrouver. C'est une figure de retournement donc qui prend son temps, qui peut prendre plusieurs mois à se mettre en place et c'est exactement ce qui permettrait de faire une belle longue réaccumulation, de revoir potentiellement le BTC entre 65 et 70 sur cette saisonnalité défavorable de septembre si elle vient à arriver. Et derrière, là, on sait qu'on aura définitivement notre point bas autour de l'automne et en termes de timing et en termes de désintérêt de prix. Voilà, tout s'alignerait plus ou moins autour de tout ça. L'autre possibilité, c'est on se fait repousser ici manu militari par les 80 000 et on repart en direction des points bas, voire faire un nouveau point bas. Arriver ici, ça paraît quand même un petit peu bizarre, vu l'énergie qui a été déployée, vu les volumes, et ça sera totalement, très certainement dépendant cet automne de si le Clarity Act passe ou non, puisque là, j'ai la sensation que depuis la réunion avec Donald Trump et toute la compagnie, eh bien, on a eu vraiment une anticipation assez folle, que ça soit du côté des Coinbase, des Circle, que ça soit du côté des projets liés au RWA, que ça soit autour de Hyperliquid qui a été cité nominativement. On a une très très grosse pré-spéculation sur les enjeux autonomes et si Clarity Act il n'y a pas à l'automne, en bout de fil. Vous vous doutez bien qu'il y aura des prises de profit qui seront à la hauteur des espérances du moment et des belles bougies qu'on a eues là à présent. Donc, il ne faut pas minimiser le fait que, en effet, là, on va connaître une volatilité qui sera assez monstre. Bien heureux celui qui pourra vous prédire avec exactitude ce qui va se passer cet automne. La bonne nouvelle, c'est que normalement, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, vous êtes en effet déjà exposé au travers du DCA et vous faites vos petites emplettes. Et normalement, ce qui est en train de se passer en ce moment ne vous impacte que très peu. Il est à noter que la dominance du Bitcoin repart à la hausse à court terme, 60-29 après un point bas autour de 58, légèrement en dessous. On aura une zone dure à venir chercher à 61, donc c'est pas encore la fameuse alt-season. Et je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez vous faire une raison autour de l'alt-season. Il n'y aura que, comme on le dit souvent, là aussi depuis quelques trimestres, une poignée d'alt tout au mieux à acheter. Et c'est ce dont on parle le plus régulièrement et dont on parle du côté des réseaux sociaux. Je sais qu'après, il y en a qui vont chercher beaucoup plus de risques en pariant sur les mêmes coins, en allant chercher des trucs complètement perdus, voire même des trucs qui sortent quasiment tous les jours. Et voilà, il y a des spéculateurs vraiment qui prennent ça pour un casino. Libre à chacun de faire absolument ce qu'il veut, mais c'est pas du tout le laïus ni le modèle que l'on défend sur la chaîne et depuis là aussi bon nombre de temps. Donc voilà, faites attention à vous. Vous pouvez toujours vous faire un petit bag, comme on dit, rentrer avec 50 euros au casino, mais ne pensez pas que en jouant absolument toutes vos économies sur un coup de dé, ça va fonctionner. C'est pas du tout comme ça que ça se passe en général. En attendant, du côté de Ethereum, on est au contact de la moyenne mobile 200. C'est une zone dure depuis très longtemps. Les 2450-2500 $, et en plus on a cette fameuse moyenne mobile 50 en orange à l'écran, si vous ne l'avez toujours pas compris, qui à 2580 arrive par le nord. Donc on a le maxi combo ici qui théoriquement nous empêche de passer, mais voilà, on est à l'abri de rien. En effet, si autour de cet automne on avait le Clarity Act totalement voté, ça bénéficiera par effet de ricochet également à Ethereum, mais aussi à toute la galaxie qui gravite de près ou de loin autour de ce projet. Il est à noter pour le ETHE, donc qui est le principal, si je ne dis pas de bêtises, de iShares ETF pour Ether, et c'est pareil du côté de Bitcoin, que lui a pris la moyenne mobile 200 et est en train de travailler une belle, belle zone de polarité, là aussi, que ça soit en hebdo ou en mensuel, entre la MM50 et la MM200. Donc en théorie, c'est une zone, même d'un point de vue des professionnels, qui est censée temporiser un petit peu toute cette zone, bien comme on l'a vu pour Bitcoin, autour de 80K, pour faire simple, et autour de 2004-2005 pour Ethereum. Du côté des minières, treasury compagnies, sociétés liées au domaine, on a des plus 5, plus 8% pour Bitfarms qui défend son support autour de la moyenne mobile 50. Ça peut devenir intéressant après un point bas la semaine dernière à 3 $, de retour à 3,50. Hut 8 qui n'était pas très loin de toucher la MM50, c'est dommage, qui s'est fait front run autour de 8, mais également haussier. Ceci étant dit, il a été beaucoup trop haussier pour qu'aujourd'hui, véritablement, ça soit intéressant de payer ça, mis à part pour ceux qui aiment payer les trends haussières, ça n'est pas mon cas, mais on a peut-être en effet l'énième bull flag ici, comme on a eu précédemment, un canal parallèle descendant, impulsion, canal parallèle descendant, probable impulsion. Donc d'un point de vue technique, ça fait sens, mais j'ai vraiment du mal, et c'est mon biais sur lequel j'essaie de travailler depuis très longtemps, à rentrer comme ça sur des actifs qui ont déjà connu des multiples complètement dingues. CLSK, donc CleanSpark Mining, qui essaie de batailler avec la moyenne mobile 50. Là, on est à plat. C'est peut-être un petit peu plus sexy pour jouer un breakout potentiel. Pareil, je ne suis pas exposé sur les minières. Je me suis fait mal au cycle précédent. Donc aujourd'hui, je regarde ça de loin. Et il me faudra vraiment beaucoup, beaucoup d'étoiles alignées pour commencer à re-rentrer. On a Riot aussi qui est sur le support et la moyenne mobile 50. D'un point de vue technique, c'est beau. Mais voilà, j'ai besoin de plus pour avoir des confirmations. Cypher qui est également sur son support. Irene qui a visité il y a un mois le support autour de 30 $ et qui est de retour à 42. Vous voyez qu'en termes de volatilité, hein, toutes ces actions sont très très volatiles, donc autant être concentré pour ceux qui veulent des cryptos sur d'autres dossiers, et notamment en tête de file, pourquoi pas BTC ou des sociétés qui sont déjà bien capitalisées, type Coinbase, et qui en théorie feront un petit peu moins le yo-yo que celles qui viennent se frotter à l'IA. Marathon, assez décevant, donc ça, personnellement, voilà, j'irai pas m'y frotter non plus. Hive, qui est sur le support long terme, avec les l'énorme poc autour de 3 dollars. Là aussi, d'un point de vue spéculatif, pourquoi pas. Mais on voit que ça fait des mouvements complètement erratiques. On a Terra Wolf qui est autour de la moyenne mobile 50. Le bas de range est aligné à 6-8 dollars avec la moyenne mobile 200. Donc là aussi, eh bien, ça va dépendre de cet automne. On peut très bien avoir cet appel d'air si, du côté de Bitcoin, on venait à reperdre 10 000 dollars, par exemple. Et c'est là où ça devient très inconfortable pour les crypto-bros dans cet intervalle où on ne sait pas encore si on est complètement sorti du bear market ou si c'est un énième trap qui, derrière, va tous nous envoyer en enfer, entre guillemets, pour reprendre la citation de GMK. On est un petit peu dans cet entre-deux. On sent quand même qu'il s'est passé quelque chose avec cette grosse bougie de Bitcoin. Si on compare à 2019, par exemple, est-ce qu'on est en avril 2019 sur la grosse bougie de BTC ou est-ce qu'on en est à peine au retest de la moyenne mobile 50 avant de partir à moins 30, moins 40% supplémentaire? C'est plutôt ça la question. Circle qui se comporte bien à court terme, et ça par contre, j'ai continué à le payer lors de son point bas. Donc voilà, comme je vous dis, il y a des trucs que je ne paye pas, il y a des trucs que je paye. Ça reste beaucoup plus risqué que de juste prendre du Coinbase de par le fait qu'ils ont moins d'historique d'antécédents et qu'en plus on est sur un domaine encore plus spécifique que Coinbase. Ceci étant dit, ils sont totalement régulés, etc. Donc ça devrait pas trop mal se passer par la suite. On est au contact de la MM50, 92 dollars pour Circle avec un ATH à venir chercher, je l'espère, sur ce cycle autour de 300 dollars. Coinbase qui a défendu son support, qui passe au-dessus de la petite trente de long terme ici et qui passe au-dessus de la moyenne mobile 200. Ceci étant dit, il faut double valider désormais. On veut passer avec une énorme bougie impulsive à nouveau tout le cluster compris entre 200 et 215 dollars, 218 d'ailleurs pour où nous attend la moyenne mobile 50. MicroStrategy qui est au contact de son gros point de marché ici. On voit le trait rouge, c'est le gros du volume profile. Zone très importante pour le marché, 128 dollars. Prochaine zone de confluence, 165 où s'aligne parfaitement MM50, MM200 hebdo. Et ensuite, on sera complètement sorti du sable, quelque part entre 200 et 235 dollars pour MSTR. Du côté des actions américaines, ça continue de monter pour Robinhood, 112 dollars, plus 8% hier. Là aussi, on est très content de l'avoir payé. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est mon cas. Autour de 64-70 dollars, ici, on n'a jamais le point bas parfait. On avait un alignement 61-8 de Fibo. Gros support, puisqu'on avait touché ça en termes de résistance en février 2025. Et on avait déjà une correction qui nous avait fait passer le cours de 155 dollars à 64, donc on était plutôt pas mal. L'intervalle, si jamais ça avait continué à se gâter ici, il était là jusqu'à la moyenne mobile 200 et on avait le POC du volume profile autour de 40 dollars, donc tout ce qui se passait entre 65 et 40 dollars personnellement m'intéressait pour du long terme pour Netflix. Il a choisi de repartir avant, donc on a un petit peu moins d'emplettes que ce qu'on aurait pu l'avoir et le faire si on était descendu beaucoup plus bas, et c'est exactement le même raisonnement que j'applique ici sur Netflix, que j'ai aujourd'hui du côté de Nvidia, que j'ai aujourd'hui du côté de Bitcoin ou que j'ai du côté de l'or. C'est exactement la même musique, peu importe le marché que l'on regarde. Il est à noter qu'on a fait un nouvel ATH pour Visa hier qui, depuis le point ici récent de mars 2026 à 292 dollars, est à 384, que ça soit Visa ou Mastercard. Voilà, là aussi, c'est des actions qui, au long terme, le cours parle pour elle-même. Il n'y a pas besoin de trop s'en préoccuper, ça fait des fonds de portefeuille pour le marché américain qui sont assez extraordinaires. Du côté du marché français, j'ai regardé un peu la watchlist, et bien c'est pas extraordinaire vu que depuis 3 semaines le CAC 40 est en correction, donc on va attendre que tout ça se pose. On a du orange au contact de la MM50, on en a quelques autres, même Schneider et tout ça qui reste très haut, donc ça reste compliqué de payer aujourd'hui le marché français. On a quelques actions de temps en temps qui décotent vachement, mais le global reste quand même plutôt pas mal loti. On attend toujours aussi le retour du luxe français qui depuis bien trop longtemps se fait punir. Du côté des altcoins, on a Fluid, Instadap qui continue de rebondir depuis 2 mois en provenance des 80 centimes. Il est à x2 désormais à 1,51-1,60. Pour le court terme, il faudra viser 2,55 où se collent justement les deux moyennes mobiles 50 et 200. La plupart du temps, hein, comme on l'a vu dans la dernière émission. Tous les haltes ont ce type de configuration, en tout cas les haltes qui ont un ou deux cycles dans les pattes. On a Pump Fun qui commence à marquer un petit peu le pas, mais là aussi on a eu un run en deux mois complètement fou. On est passé de 0,0150 à 0,0052, donc ça a été une accélération x4 x5. C'est peut-être pas le moment pour s'exciter là-dessus. On a Hyperliquid qui marque le pas donc sur son nouvel ATH au-dessus des 83$. Attention aussi, c'est la première fois qu'on voit ça ici, en tout cas pour le court terme. On a peut-être une divergence qui est en train de se mettre en place avec le RSI qui fait 2 points moins haut que le précédent, donc lorsqu'on avait fait ce point haut en mai 2026 autour de 76$, et tandis qu'on a fait un nouveau point haut ici avec assez peu de volume. On est ici sur KuCoin, donc c'est peut-être pas là où c'est le plus pertinent pour le volume, mais on voit que contrairement à tout ce qui avait été exécuté ici sur le départ, on est quand même peut-être sur quelque chose qui est en train de se poser par rapport à Hype plutôt que d'alimenter immédiatement la machine. On peut très bien dans l'intervalle de temps, la cour moyen, aller chercher les $100 pour avoir le compte rond psychologique, mais faites attention à vous puisque voilà, en fonction de comment va se dérouler l'automne, on pourra avoir des corrections un peu plus marquées par la suite sur des actifs qui ont déjà été bien capitalisés. Pareillement pour ZEC qui vient retester donc la sortie d'ATH autour de $750. On a AAV qui s'est télescopé littéralement dans le combo moyenne mobile 50, moyenne mobile 200 autour de $140. Grosse résistance de marché aussi pour AAV autour de cette zone. On va voir comment il va corriger pour le court moyen terme. Taobi Tensor qui n'a pas énormément de jus mais qui a défendu le support des $190 consolide à $233. On voit qu'il nous faudra nous extirper rapidement des $265 à $300 pour espérer commencer à renverser cette polarité. Du côté des mêmes coins, on a Doge qui est venu chercher en ligne droite donc son POC autour de 0,10 en provenance de 0,068, et on voit que immédiatement la spéculation, même sur des vieux dinosaures, des vieux briscards comme Dogecoin, sont immédiatement vendus dès lors qu'on atteint des objectifs techniques. C'est pareil pour Chainlink qui a été vendu au contact de la MM200 à 12,56 en consolidation sur la moyenne mobile 50 avec une extraction qui pourrait intervenir plus tard au-dessus de $15. Et Solana qui pour le moment n'a pas eu le jus d'aller chercher lui son combo MM200, MM50 qui se trouve à $110-$112. Il est à observer également que sur bon nombre d'altcoins, je prends Solana puisque c'est à peu prévisible, mais c'est pareil sur ceux que je viens de vous présenter juste avant, on commence à avoir des bougies comme ça avec des grosses ombres au-dessus sur la partie supérieure donc de la bougie, ce qui veut dire que petit à petit les vendeurs sont en train de se montrer. On clôture avec l'Asie, Xiaomi qui prend plus 3% aujourd'hui proche de la MM200, on a Samsung plus 2,33, mais là aussi c'est un petit peu à l'image de la tech en ce moment et des semi-conducteurs, de tout ce qui se passe. On ne sait pas trop quel va être le directionnel autour de cet automne, si c'est juste une petite pause, si c'était le dead cat bounce et si on s'enfonce derrière. Donc en fait, à partir du moment où on a trop de doutes comme ça dans des intermédiaires un petit peu au milieu de nulle part de marché, il vaut mieux attendre pour voir quelles vont être les prochaines cartes qui vont sortir, un petit peu comme au poker finalement. Tencent qui continue de consolider, lui il est un petit peu plus propre autour de la moyenne mobile 200, mais on a senti moins d'envie quand tout le secteur était reparti, notamment pour la Chine et l'Asie. On a le Kospi, pareil, ça fait deux semaines que les acheteurs défendent les 6400 points, mais on a des bougies vraiment très volatiles. Alibaba à 120 qui essaie de raccrocher donc son support. Le Shanghai Composite Index autour de 4550, moyenne mobile 50 depuis 3 semaines, statu quo. Le Topix 4111, le Nikkei 66228. Là aussi, ça peut faire penser à un début de distribution, mais on est quand même plutôt pas mal posé pour le Japon. Ceci étant dit, bah, eux, leur problématique, c'est toujours pareil. Hein, comme aux États-Unis, on a un 30 ans au-dessus de 4 points, un 20 ans à 3,76, mais ce qui est vrai pour eux l'est aussi pour l'Occident, même pour l'Europe. Donc c'est un problème mondial aujourd'hui, la dette et tous ces taux qui petit à petit explosent à la hausse. On finira avec Nintendo qui a été payé à la moyenne mobile 200. Quand je dis a été payé, c'est le marché qui l'a payé. Quand je paie quelque chose, je vous le dis également. Et là donc aujourd'hui, on a eu une belle résolution, belle contraction. Peut-être un ping-pong justement entre les 8,41 sur le TSE et 9,62. Donc ça doit être le Taiwan Stock Exchange si je dis pas de bêtises. On a une résolution là au niveau du bottom de Nintendo qui est plutôt agréable et surtout beaucoup de titres qui ont été exécutés à compter du printemps 2026. On voit que par rapport au passé, on a quand même quelque chose qui est en train de se passer sur ce titre. Je vous souhaite une excellente journée. Pouces et commentaires puisque comme vous le voyez, c'est des émissions qui sont beaucoup plus denses et qui nécessitent un peu peu plus de préparation, notamment autour des PowerPoint, etc. On continue de faire ça une à deux fois par semaine et j'espère que cet automne nous sera à peu près favorable. Si septembre nous apporte un moins 5 à moins 10% sur le S&P 500, ça sera des opportunités, croyez-le bien, qu'on saura saisir à bon escient. Très bonne journée et à samedi. Ciao, ciao.